Bienvenue à tous. Donnez mat den hall en breton. Voici le petit journal du Festival Interceltique de l'Orient, édition 2022, année des Asturies. Présentation, réalisation, Stéphane Coyote-Blesprat.
Pour Radio Balise, Radio Large et Corrigan Productions.
Interview réalisée en collaboration avec Loïc Turmel de Radio Rennes et Radio Évasion.
Dernier journal du Festival Interceltique de l'Orient. Voilà, ça y est, c'est le bilan. On se retrouve avec Jean Peters, le président. Des chiffres, peut-être ?
Oui, bon, écoutez, d'abord, c'est un festival qui a attiré énormément de visiteurs à l'Orient. Hein. On me parle d'à peu près 900 000 visiteurs, quand en 2019, on était plutôt autour de 750 800 000. De toute façon, dès le premier vendredi, dès le matin, les rues de l'Orient étaient noires de monde. Donc, et ça, ça a duré toute la semaine. Toute la semaine, ça a baissé en milieu de semaine. Mais globalement, il y a eu énormément de monde. Quoi.
Si on avait eu quelques degrés de moins, peut-être qu'il y aurait eu plus de monde encore.
Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ce qui est sûr, c'est que l'après-midi, il y avait moins de monde puisqu'il faisait très très chaud. Mais le soir, les températures étaient, on va dire, méditerranéennes ou bien au moins du sud-ouest. Et donc, c'était très agréable de venir en ville. Quoi.
Quelques chiffres au niveau de la fréquentation, au niveau de la billetterie vendue.
Le nombre de billets vendus, alors je
c'est 125 000, c'est ça ?
Ouais,
avec c'est bracelet compris. Hein.
Ça, ouais, bracelet compris, donc voilà, tout ça, c'est, évidemment, c'est la billetterie. C'est un peu moins d'un tiers de notre budget, donc c'est quand même assez important. C'est à peu près en ligne avec ce qu'on avait prévu, donc voilà quoi.
Un petit mot aussi sur les nouvelles installations, peut-être le club et puis la nouvelle disposition de l'espace marine. Hein.
Oui, alors c'était vraiment des nouveautés. Le club, d'abord, il y avait un besoin, j'allais dire, pratiquement une nécessité, oui, pour rajeunir, pour s'adresser à une population qui ne vient pas nécessairement au festival. Donc ça, c'est vraiment une très, très bonne idée. Sur un endroit qui n'était plus utilisé non plus à l'Orient, et donc on réinvestit un espace qui fait le lien, j'allais dire, géographique entre le stade et le reste du festival. Et au moins une deuxième innovation, ça a été en effet l'amphi, avec une scène tournée à 90 degrés, plus des gradins. On a les chances qu'il fasse chaud le soir. L'après-midi faisait très, 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 très chaud. Donc c'est aussi à repenser, mais c'était une innovation. Je crois qu'il fallait le faire et on en tirera un certain nombre de conséquences.
Alors, il y avait le badge les autres années. Ouais. Il y avait un forfait cette année 9 euros. Est-ce que ça pourrait changer avec des forfaits journaliers ou bien sur 2-3 jours ?
Là, bon, voilà, on a changé. On s'était dit que ça nous permettrait de mieux compter les visiteurs. Bah, j'ai employé tout à l'heure l'adjectif perfectible. C'est largement perfectible. Il faudra réfléchir à ce qu'on fait avec ce bracelet par rapport au badge de soutien et coût-bénéfice, on va le dire comme ça, quoi. Et aussi logistique, quoi.
Et les éditeurs qui ont déménagé par rapport aux années passées, je crois qu'il y a eu une petite grogne, là.
Oui, il y a eu une petite grogne. Je comprends la grogne. Alors, je ne connais pas leurs chiffres d'affaires. Je comprends la grogne, moi aussi. Hein. De par mon profil, je préfère avoir des livres sur lequel des livres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, quand on a commencé à imaginer le festival, avec les conditions sanitaires qu'on avait, jamais on n'aurait dû avoir quoi que ce soit sur le quai du livre. Donc, voilà. Donc ce qui fait que l'implantation du festival a été pensée pour avoir quand même un quai du livre, enfin un jardin du livre ailleurs. Et puis après, ça s'est desserré, mais ça s'est desserré assez tard, ce qui fait qu'on s'est dit, on va quand même mettre des choses sur ce quai-là pour le meubler, pour le faire vivre, etc. Donc voilà, le but n'a pas été de déménager les livres. Moi, j'aimerais bien les retrouver là l'année prochaine. Je suis très, très, très content. Hein. Mais on a eu une contrainte de programmation dès le départ. Quoi.
Financièrement, le festival est viable cette année, ça va ? Vous n'avez pas forcément gagné d'argent, mais vous allez amortir ?
Alors, heureusement qu'on avait des bases solides. On s'était donné un objectif, c'est-à-dire permettre à Jean-Philippe d'innover, de faire des choses nouvelles. Ça a un coût. Ça a un coût. Vous faites du collage sur un bâtiment, ça ne vous rapporte pas d'argent. Hein. Donc voilà, on a une nouvelle salle. Donc voilà, il y avait cette volonté-là. Et la deuxième... Bah, c'est que, comme tout le monde, hein, on a subi des augmentations sur les chapiteaux, sur la technique, sur les salaires, sur la sécurité, sur les transports, des mauvaises nouvelles sur les transports. Enfin bon, un avion qui est annulé, on doit en prendre un autre pour faire venir la délégation irlandaise. À la fin, vous avez 60 000 euros de plus, que vous avez pas, ou bien vous n'avez pas de délégation irlandaise. Quoi. Donc tout ça, ce sont des mauvaises nouvelles. Donc, ce qui fait que le bilan, à la fin, en termes financiers, sera pas, risque de ne pas être positif. Quoi. On le savait dès le départ, on a pris les risques, mais si on n'avait pas fait cette année, on ne l'aurait jamais fait. Donc voilà. Par contre, ça veut dire qu'il va falloir faire du recadrage pour l'année prochaine. On ne pourra pas, l'année prochaine, continuer à faire la même chose qu'on a fait cette année. Ça, c'est sûr. Quoi.
Jean Peters, président du Festival Interceltique de Lorient.
Oui, on a surtout quelques mois, pas l'année, mais quelques mois pour se donner de grandes orientations, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire un festival qui soit viable financièrement, voilà, et qui aussi ne tire pas sur les équipes, parce que ça a été quand même très dur pour tout le monde, quoi. Plus vous augmentez, j'entends les suggestions de mettre encore un pavillon ici, un pavillon là, mais c'est déjà beaucoup, 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 quoi. Et le volume de bénévoles qu'on a, 1500, 1700, on a déjà du mal à compléter. On ne va pas pouvoir indéfiniment l'augmenter, quoi.
Le directeur sera là l'an prochain, il a un contrat de combien de temps à peu près? C'est indéterminé ou bien c'est un contrat à temps?
Moi j'espère qu'il continuera à être là, je veux dire. C'est
sur combien de temps il...
Bah, c'est un CDI, donc CDI, voilà, c'est un CDI. Voilà. Je pense que Jean-Philippe...
Un poquet.
Ah, oui. Quand on dit que Jean-Philippe, c'est l'an 1 du cinquantenaire, c'est-à-dire il y aura au moins l'an 2 et l'an 3. Non, on est sur une trajectoire, quoi. On est sur une trajectoire.
Et est-ce que le président est allé au spectacle hein?
Très peu. Il va très peu au spectacle, le président... Il va plutôt. J'ai fait deux spectacles. Hein, j'ai dit à Rodrigo Cuevas et à Ronan Le Mars. Voilà. Et après, je tourne, je vais voir. J'ai beaucoup de protocoles, beaucoup de relations publiques. Donc ça m'a occupé jusqu'à jeudi. C'est assez incroyable. Et puis après, c'est discuter avec les gens, rencontrer les gens. Il y a aussi cette question d'animation de l'association. Donc il faut écouter les gens, écouter les suggestions, entendre les plaintes, essayer de résoudre des problèmes, pas seul, etc. Ça fait partie aussi de mon travail. Donc oui, voilà, deux spectacles pour le moment, c'est pas ce que je recherche. Voilà, je suis content d'aller voir un petit bout de spectacle, savoir ce que ça se passe bien. Voilà.
Voilà, il y a toute la face cachée du festival finalement quand même. Hein.
Tu vis toute l'année.
Oui, il y a bien sûr une structure salariée de 14 personnes. Donc oui, évidemment, c'est beaucoup de travail. Et puis après, oui, il y a quand même énormément d'intervenants, des gens qui sont impliqués depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est assez étonnant. Et cette. Population là, c'est aussi l'âme du festival, quoi.
Oui, 1600 bénévoles, c'est quand même pas rien, oui.
Oui, ça donne une âme au festival, quoi. Donc bon, on est quand même organisé sous forme de service pour organiser cela, oui. Mais oui, c'est une grosse organisation. C'est pour ça que ce qu'on a fait aujourd'hui, cette année, est quand même très très particulier, voilà. Et ça a beaucoup tiré sur l'énergie des équipes salariées et bénévoles.
On se retrouve l'an prochain, du 4 au 13 août, pour le 52e, l'année de l'Irlande.
Oui, année de l'Irlande, donc ça va faire plaisir à tout le monde. Bon, vous savez que tout le monde a un lien en Bretagne affectif avec l'Irlande. J'aimerais bien qu'il soit réciproque, même s'il est un petit peu... Ce qu'on a comme chance, c'est que l'année prochaine, c'est l'année de la France en Irlande. Chaque pays a toujours l'année 2, voilà, et donc c'est l'année de la France en Irlande. Peut-être que le baguette de l'NBA ira défiler lors de la Saint-Patrick. Je sais qu'il y a des discussions. Je pense que si la région Bretagne, accompagnée de la ville de Lorient, veulent faire une opération de communication en Irlande, c'est le bon moment. Donc il y a un créneau à trouver. Et je sais que, en restant sur l'institutionnel, le président de la région Bretagne va organiser au mois de novembre un sommet, alors économico-politique, on va voir ce que ce sera, j'ai pas le contenu, avec ses homologues celtes, c'est-à-dire au moins Irlande, Écosse et Pays de Galles, à Lorient. Donc de ce point de vue-là, les voyants sont vraiment au vert. Et je sais aussi que le Pays de Galles a vraiment l'intention de travailler un peu plus avec la Bretagne. Donc, de cet environnement qui n'est pas, je veux dire, culturel, artistique, on a des voyants qui sont vraiment ouverts, mais qui permettent aussi, et ça c'est important, de s'assurer qu'il y aura bien des financements publics pour nos délégations. Parce qu'il n'y a pas de financement public, elles ne peuvent pas venir.
Un ministre de la Culture qui viendrait au festival serait pas mal aussi, non?
C'est déjà arrivé, c'était Jack Lang hein, il y a longtemps. Oui, ce serait très très bien, et même plus qu'un ministre de la Culture, quoi. Voilà, ce serait pas mal. On a évidemment un ministre d'État qui venait régulièrement, qui est au cœur de cette année, mais c'est un Lorientais d'origine, donc voilà, c'est pas tout à fait pareil. Mais je sais que pas mal de gens de cabinet ministériel étaient en vacances à Lorient et ont pu voir ce que c'était que le festival. Donc voilà, on n'a pas de ministre, mais on a des gens de cabinet ministériel qui étaient là et qui ont vu ce que c'était que le festival.
Bien, merci.
Merci Jean-Peters.
Merci beaucoup.
À l'année prochaine et bonne suite et bonne année.
Ouais, merci beaucoup. Non, mais merci à vous aussi de couvrir le festival.
On a vraiment continuer.
Besoin de vous voilà, pendant le festival. Merci beaucoup.
Kenavo.
À Kenavo,
Michel. Merci, c'était Jean-Peters, président du Festival Interceltique de Lorient. Alors nous sommes toujours dans notre journal du festival avec Jean-Philippe Moras, directeur du festival interceltique. Un petit bilan artistique, les concerts ont bien marché ?
Les concerts ont bien marché, je suis un directeur artistique satisfait, puisque quand on écrit le menu, je dis souvent ça, comme un cuisinier, on écrit le menu, on attend ce que les clients ou que les convives soient satisfaits, et ça on le sait s'ils ne laissent rien dans l'assiette. Et pour nous, on le sait effectivement déjà si les gens viennent au concert, et ensuite de la manière dont les concerts se terminent, quand les gens se lèvent ou comment dire, sont effectivement heureux et sortent de là avec la banane, c'est vraiment toujours très très agréable. Donc je ne peux être que satisfait. On a eu beaucoup de concerts qui étaient complets cette semaine, avec de très très belles rencontres aussi, et des fois des rencontres entre les groupes, avec beaucoup de surprises, avec beaucoup de mélanges sur scène, comment dire, avec des... Et c'est, pour moi, c'est aussi ça un festival. Il y a aussi la satisfaction de cette création qu'on a menée depuis septembre dernier, qu'on appelle Celtic Odyssey, qu'on donnait deux fois au théâtre avec l'artiste Ronan Le Barce et ses 17 musiciens, 17 invités des différentes nations celtes. Ça a été effectivement une réussite, très satisfait, et d'autant plus satisfait que c'est une création qu'on va pouvoir redonner, une création qui va pouvoir évoluer. On va la jouer à Glasgow en janvier prochain, on la jouera à Paris le 8 juin prochain, enfin le 8 juin dans moins d'un an maintenant à l'Olympia, et on aura une nouvelle version de Celtic Odyssey pour l'édition 2023 aussi du festival. C'est un concept qui est appelé à évoluer, mais c'est ce concept que j'avais souhaité, qu'on souhaite ce concept des musiques interceltiques, puisque c'est toujours ce que je souhaite, c'est bien remettre de l'interceltisme au maximum dans les créations et dans des spectacles du festival.
Et l'artiste Ronan Le Barce, justement, est peut-être l'artiste interceltique, non, de Bretagne.
Mon choix était assez évident. Il me fallait quelqu'un qui ait déjà l'expérience, la capacité de pouvoir mener un projet de ce type, et qui soit aussi connu sur la planète celtique. Et Ronan Le Barce cochait toutes les cases, puisque quand on a appelé, que ce soit, je pense, à Karen Matheson, ou Rosé-Emmanuel Térédor, ou comment dire, ou Niall Vallely, ou Donald O'Connor pour l'Irlande, dès qu'ils ont entendu le nom de Ronan, Festival Interceltique de l'Orient, Ronan Le Barce, bien sûr, on y est. C'était juste un projet, mais en faisant toute confiance. Même chose pour Denis Prigent qui a participé et qui participe à ce projet et qui était ravi de participer à un collectif. Alors certains disaient, est-ce que c'est le nouvel héritage des Celtes ? C'est pas de comparaison, mais l'idée en tout cas d'avoir une espèce de Dream Team ou une Champions League comme ça, ou des gens quand même qui ont des tournées et des carrières incroyables et qui de temps en temps peuvent se retrouver et partager leur passion et partager leur musique, c'est une belle idée. Donc j'espère qu'on aura encore de très très beaux rendez-vous.
Ça peut faire penser effectivement l'héritage des Celtes, hein. Moi je l'ai entendu. Hein.
Oui, l'idée est là, de toute façon l'héritage des Celtes aussi, c'était cette envie d'aller rencontrer nos différents, qu'on appelle nos différents cousins de nos nations celtes. Là on a vraiment tenu que les 8 nations celtes d'Europe que met en avant le festival soient représentées, donc même des territoires comme le Pays de Galles, la Cornouaille ou l'île de Man étaient aussi représentés, et on verra, le délégué australien me disait, ça serait peut-être bien quand même aussi qu'on mette peut-être un petit coup de didgeridoo, comment dire, dans cette création, pourquoi pas, les choses peuvent rester ouverte, et sans doute que les Acadiens voudront peut-être faire des choses aussi.
Les Acadiens vont dire et nous.
Voilà. Mais c'est vraiment cette idée, c'est quelque part, au même titre que Horizon Celtique, le grand spectacle au stade, correspond...
Un petit peu évolué.
Qui a évolué, puisqu'on a voilà, enfin en tout cas je disais, c'est ce son et lumière qui correspond avec toutes les délégations, qui correspond à aussi cette vision de l'interceltisme au niveau des groupes de danse et les paillebandes et Banda de Gaitas et autres, ben c'est une version, si on veut, Celtic Odyssey de cet interceltisme, mais sur scène, effectivement, avec moins de participants, mais ô combien prestigieux. Pour revenir à ta question, effectivement, Horizon Celtique, oui, on l'a fait évoluer de Nuit Interceltique à Horizon Celtique, on a changé le titre. Le concept, de toute manière, reste toujours le même, mais on a travaillé beaucoup sur le format, puisque là, cette année, on pouvait rentrer à 21h30 pour le concert et on sortait à minuit, là où auparavant, on commençait à 10h et on sortait vers 1h15, 1h30 du matin. C'était vraiment un choix de rythmer, de re-rythmer comment dire, ce spectacle, de changer aussi, de changer la fin, de rentrer effectivement beaucoup plus en communion avec cet interceltisme qui me tient vraiment à cœur, et donc plutôt une réussite. Donc là on va encore affiner, réécrire des choses pour présenter un Horizon Celtique 2 en 2023.
Des améliorations par exemple sur l'amphi qui a bien marché, et puis le club étonnant d'ailleurs. Sympathique,
oui,
convivial.
Les deux nouveautés, enfin les deux grosses nouveautés, sinon c'était l'amphithéâtre à la place de l'espace marine. Donc les gens ont apprécié, j'avais dit, moi je souhaitais qu'on revienne un peu sur du plein air pour gagner en acoustique plutôt que d'être, sous tente, notamment pour ces grands spectacles. On va retravailler, le lieu qui a vraiment remporté tous les suffrages, mais on va le retravailler. Donc Je pense que voilà, on a quelques idées. Et en ce qui concerne le club, au niveau de l'emplacement, au niveau de la taille, c'est vraiment idéal. Certainement des améliorations à faire au niveau du son, au niveau voilà, effectivement de l'acoustique. Et encore les jeunes qui étaient là, voilà, plus ça donne, mieux c'est. Hein.
Alors l'année prochaine, l'Irlande, là, ça va donner aussi là.
Oui, c'est un thème, c'est un thème très porteur, c'est un thème très riche, très festif, très heureux. Donc on a dévoilé le thème, on a dévoilé les dates, on a dévoilé l'autocollant. Beaucoup, beaucoup d'idées. Donc c'est vrai que j'ai commencé déjà depuis quelques mois à travailler sur la programmation 2023. Et voilà, on dévoilera tout ça, au moins une grosse première partie en décembre. Et avec, j'espère, de belles surprises pour à nouveau vivre un très, très beau festival interceltique de l'Orient.
Cathy Jordan, hier, à la fin du spectacle, a dit « See you next year ».
Elle a dit ça.
Et peut-être un nouvel endroit, la Maison de la Mer, parce que c'est vrai que ça, les travaux se sont juste arrêtés avant le festival. Hein.
C'est évident que
de la mer.
Voilà, cette nouvelle esplanade donne des idées. Voilà, on va y travailler, on va déjà terminer cette édition, travailler sur les bilans et commencer à se projeter aussi au niveau des différentes implantations pour 2023, avec les choses qui ont fonctionné cette année, d'autres qui ont peut-être des fois un peu moins bien fonctionné, pour essayer de satisfaire l'ensemble et principalement satisfaire les festivaliers, de manière à trouver aussi cette logique qu'il y a sur ce festival urbain qu'est l'Orient.
Pas de souci de concurrence, parce qu'il y avait quand même pas mal de monde derrière, il y a Paimpol dans le nord, il y avait Vannes à l'est, et puis également Concarneau, les filets bleus, parce qu'ils étaient tous en même temps.
Hein. Sur le dernier week-end, c'est exact, et étonnamment, ça fonctionne très très bien, et il y a vraiment une grosse fréquentation, et les spectacles n'en ont pas pâti, ni hier, et ni au vu des chiffres, ni pour ce soir. Donc, comme quoi, il y a beaucoup de monde en Bretagne, et c'est plutôt très bien pour notre région, et pour tous les professionnels qui y travaillent.
Tu es parti pour une grande aventure. Après l'Irlande, ce sera quoi? Tu sais, tu as déjà des pistes?
On en reparle l'année prochaine.
2024. Donc, année de l'Irlande, on rappelle les dates. Hein. 4, 13 août 2023.
C'est exact. Et on se donne rendez-vous.
Kenavo, Jean-Philippe.
Kenavo.
C'était Jean-Philippe Moras, directeur du Festival Interceltique de l'Orient pour le bilan 2022.
Interview réalisée en collaboration avec Loïc Turmel de Radio Rennes et Radio Évasion.
Merci à toutes les équipes du festival. En savoir plus pour cet événement, www.festival-interceltique.bzh. Des infos sur radiobalise.com, sur le site de la production des Corrigans. C'était le petit journal du Festival Interceltique de l'Orient. Présentation, réalisation, Stéphane Coyote-Blesprat. Et n'oubliez pas, le 52e, ce sera l'année de l'Irlande. Canarène Tatro!